Chapitre 22. Finesse d'amour du galant Don Quichotte dans la Sierra Morena. Le chevalier de la triste figure, demeuré seul et en chemise, interrompit ses culbutes pour monter sur le haut d'un rocher. Là, il réfléchit mûrement sur un point qui l'embarrassait. « Examinons bien, disait-il en lui-même, si je dois prendre le parti de me déclarer fou furieux, comme Roland, ou fou triste, comme Amadis. » Ces deux modèles sont également beaux à suivre, mais ce Roland, qui dans le fait n'avait pas un si grand mérite à être vaillant, puisqu'il était invulnérable, devint tout à coup furieux, parce qu'Angélique l'avait oublié. Si j'imite Roland, j'offense Dulcinée. Je donne un prétexte au méchant de soupçonner sa vertu. Amadis, qui valait au moins Roland, se retira sur la roche pauvre pour y pleurer pendant plusieurs années, uniquement parce qu'Oriane l'avait banni de sa présence. Il n'y a rien là qui ne soit honnête, décent, honorable pour tous les deux. Vive, vive le grand Amadis! Il descendit alors du rocher, reprit une partie de ses vêtements, et se rappelant que la prière occupait souvent Amadis, il se fit avec des glands enfilés une espèce de rosaire, qu'il disait avec dévotion. Le reste du temps, il se promenait dans le pré, s'entretenait avec ses pensées, faisait des vers qu'il écrivait sur les hêtres ou sur le sable du ruisseau. Tandis qu'il célébrait ainsi sa dame, qu'il confiait sa douleur aux sylvains, aux nymphes des bois, et qu'il se nourrissait d'herbes sauvages, Sancho poursuivait son chemin. Si malheureusement ce voyage avait été de 3 semaines, comme il ne fut que de 3 jours, le fidèle écuyer risquait de ne pas retrouver son maître en vie. Mais 24 heures après l'avoir quitté, Sancho arriva pour dîner à la fatale hôtellerie où l'on s'était amusé à le faire sauter dans la couverture. Dès qu'il l'aperçut, il lui prit un frisson. Cependant, comme il avait faim, il s'arrêta malgré lui, regardant de côté la porte et ne sachant s'il devait entrer. À l'instant même, il en sortit 2 hommes, dont l'un dit à l'autre. « Seigneur licencié, n'est-ce point là, Sancho pensa, celui que la gouvernante nous a dit avoir suivi notre aventurier ?»« C'est lui-même, répond l'ecclésiastique, et je reconnais le cheval de Don Quichotte. » Aussitôt, le curé et le barbier, car c'étaient eux, s'approchèrent de notre voyageur. « Ami Sancho, dit le curé, qu'avez-vous fait de votre maître ?»« Monsieur, répondit l'écuyer, qui les reconnut aussi, « mon maître est dans un certain lieu, occupé de certaines choses fort importantes et que, sur les yeux de ma tête, j'ai promis de ne point révéler. »« Oh !» s'écria le barbier, « si monsieur Sancho fait de la discrète, nous serons persuadés qu'il a volé le seigneur Don Quichotte et qu'il lui a pris jusqu'à son cheval que voilà. »« Monsieur, répliqua l'écuyer, ne soyez pas si léger dans vos jugements et dans vos propos. Mon maître, au fond de ces montagnes, accomplit une pénitence. » Et moi, comme son ambassadeur, je vais porter une lettre de lui à Madame Dulcinée du Toboso, fille de Laurent Corchuelo, pour laquelle il se meurt d'amour. Maître Nicolas et le curé, surpris de cette nouvelle folie, demandèrent à voir cette lettre. Sancho leur dit qu'elle était sur des tablettes et que son maître lui avait ordonné de la faire transcrire au premier village. Le curé s'offrit pour la copier. Sancho descendit alors de cheval et mit la main dans son sein pour en tirer les tablettes qu'il n'avait garde de trouver, puisqu'il les avait oubliées. Inquiet, troublé, pâle de frayeur, Sancho tourne, retourne ses poches, se tâte par tout le corps, et prenant ensuite sa barbe à deux mains, s'en arrache la moitié, se donne 5 ou 6 soufflets et s'égratigne le visage. « Qu'avez-vous donc ? » s'écria le curé. « Ce que j'ai, répondit-il. « Ah, malheureux que je suis, je viens de perdre en un moment 3 superbes anons, dont chacun valait une métairie. »« Comment ?» répliqua le barbier. « Ces anons étaient-ils dans votre poche ?»« Sans doute, puisqu'ils étaient dans une lettre de change signée de mon maître, portant l'ordre à sa nièce de me donner 3 anons de 4 ou 5 qu'il a chez lui. » Cette lettre de change, avec l'épître pour Madame Dulcinée, était dans les tablettes que j'ai perdues. Le curé consola Sancho et lui promit qu'en retrouvant Don Quichotte, il lui ferait renouveler la lettre de change. Le bon écuyer, un peu rassuré, dit alors qu'il regrettait peu l'épître à Madame Dulcinée parce qu'il la savait presque par cœur. Le barbier le pria de la répéter afin qu'il pût se la mettre honnête. Alors Sancho, se grattant la tête, se mit sur un pied, puis sur un autre, regarda la terre, le ciel, se mangea la moitié d'un ongle et finit par dire « Le diable s'en mêle, car je ne peux me rappeler que le commencement de la lettre où il y avait haute et souterraine dame. » « Vous voulez dire souveraine ?» reprit le barbier. « Oui, c'était souveraine, je m'en souviens. » Ensuite il disait « Celui dont le cœur est blessé vous souhaite, ennemi adoré, l'affreux état où il est réduit. » Il y avait après cela des tristes jours, et puis un seul mot. Et après le seul mot, cela finissait par « votre, jusqu'à la mort, chevalier de la triste figure. » Voilà toute la lettre à peu près. » Le barbier et le curé félicitèrent Sancho sur son heureuse mémoire et lui firent répéter deux ou trois fois cette lettre afin de la copier. Sancho la répéta deux ou trois fois de façon différente et raconta dans un grand détail tout ce qui lui était arrivé avec son maître, sans pourtant juger à propos de dire qu'il avait été berné dans cette même hôtellerie où il refusa d'entrer. Il ajouta qu'aussitôt après son ambassade à Madame Dulcinée, son maître était décidé à s'aller faire empereur quelque part, que, quant à lui, son parti était pris, dès qu'il serait veuf, ce qui ne pouvait manquer d'être prochain, d'épouser une demoiselle de l'impératrice, qui lui apporterait en dot un bon duché en terre ferme, parce qu'il était revenu des îles et qu'il ne s'en souciait plus. Sancho disait tout cela d'un si beau sang-froid, d'un ton si tranquille, en essuyant de temps en temps les égratignures qu'il s'était faites, que le curé et le barbier jugèrent fort inutile d'essayer de lui parler raison et le regardèrent au moins comme aussi fou que son maître. « Je vous fais d'avance mon compliment, reprit le curé, car je vois bien qu'avant peu le seigneur Don Quichotte sera roi ou tout au moins archevêque. Alors... » « Archevêque, interrompit l'écuyer, il ne m'en a point parlé. Mais si cette fantaisie allait lui prendre, dites-moi ce que les archevêques errants ont coutume de donner à leurs écuyers. Ordinairement, ils les font jouir de quelques bénéfices simples, d'une bonne cure ou de quelques chapelles qu'ils leur apportent beaucoup, sans compter le casuel. Diable, j'aimerais assez un bénéfice. Mais pour le posséder, il faut n'être pas marié et savoir au moins servir la messe. Me voilà joli garçon, moi qui ai une femme et qui ne sais rien. Ah, messieurs, je vous demande en grâce de détourner mon maître de ce projet et de l'engager à se faire tout bonnement empereur. » Le barbier et le curé lui promirent d'en parler à Don Quichotte. « Mais, ajoutèrent-ils, nous devons nous occuper à présent de le tirer de son désert. « Nous réfléchirons là-dessus à table. Venez avec nous dans l'auberge. »« Non, » répondit Sancho en détournant la tête. « Si cela vous est égal, je n'entrerai point dans cette auberge-là. Je vous en dirai quelque jour les raisons. Vous pouvez m'envoyer ici mon dîner avec un peu d'orge pour Rocinante. » On ne le pressa pas davantage et le barbier lui fit porter à manger. Le curé, pendant ce temps, imaginez un moyen qui devait réussir auprès de Don Quichotte pour le conduire où l'on voudrait. C'était de s'habiller en demoiselle errante, en se couvrant le visage d'un voile, de déguiser maître Nicolas en écuyer et de s'en aller ainsi se jeter aux pieds de notre héros en lui demandant un don. Après que ce don serait accordé, la demoiselle, affligée, devait le prier de venir avec elle pour la venger d'un chevalier félon, et le prierait de ne point exiger qu'elle ôtât son voile avant la fin de cette aventure. De cette manière, on était certain de mener Don Quichotte jusqu'à son village, où l'on essaierait de guérir son inconcevable folie.